RCF.
7h30, l'heure du journal, présenté par Lucie Rispal. Bonjour Lucie.
Bonjour Pierruc, bonjour à toutes et à tous.
L'ordre mondial, bâti après 1945 et au bord de la rupture, c'est ce que dit la secrétaire générale d'Amnesty International.
Oui, l'ONG qui publie son rapport annuel sur les droits humains dans le monde aujourd'hui. L'année qui vient de se dérouler est alarmante, avec un recul des droits fondamentaux et des civils qui ne sont pas protégés, notamment dans les guerres en Ukraine, à Gaza ou encore au Soudan. On en parle dans un instant. En France, vers un jeudi noir demain, dans les aéroports, une grève des contrôleurs aériens est prévue un peu partout dans le pays et devrait conduire à des annulations de vols en pagaille. On fera le point dans quelques minutes. Et puis c'est la journée internationale du chien guide aujourd'hui, avec une légère méconnaissance en France encore autour de ce sujet. Dans certains lieux publics, certains chiens sont encore refusés, contrairement à la loi. On en parle dans un instant.
Amnesty International dévoile son rapport annuel sur les droits humains dans le monde.
Selon l'ONG, l'année qui vient de se dérouler est alarmante, avec un recul des droits fondamentaux et des civils qui ne sont pas protégés, notamment dans les guerres en Ukraine, à Gaza ou encore au Soudan. Mais l'ONG s'inquiète aussi de la situation en France, où des atteintes aux droits et libertés mettent en danger l'état de droit. Les explications de Nathalie Godard, elle est directrice d'Amnesty International France.
Ça fait des années qu'on documente des atteintes aux libertés et aux droits en France de manière répétée, notamment la liberté de manifester, la liberté d'expression, les libertés d'association. Et en fait, quand on combine toutes ces atteintes aux droits et libertés avec une remise en cause de plus en plus manifeste par les responsables politiques de l'importance du droit international, tout ceci ensemble nous inquiète et nous donne l'impression qu'on est face à une dégradation de l'état de droit. Par exemple, quand la loi immigration a été votée en décembre dernier, le texte de loi qui a été présenté aux parlementaires était manifestement à la fois discriminatoire et xénophobe, mais était aussi complètement contraire aux engagements internationaux de la France et même à la Constitution. Et ça, c'était tout à fait assumé par à la fois les parlementaires qui l'ont voté et même le gouvernement. Et malgré cela, le gouvernement n'a pas retiré son projet de loi. Et ça, c'est vraiment problématique.
Vous écoutiez Nathalie Godard, directrice de l'action d'Amnesty International France. À l'approche des JO, l'ONG alerte aussi sur la surveillance massive de l'espace public qui pourrait perdurer après la compétition.
À l'international, les Arméniens et leur diaspora commémorent aujourd'hui le génocide arménien perpétré il y a 109 ans par l'Empire ottoman turc.
Hasard du calendrier, cet anniversaire survient au moment où un accord de paix se profile entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan après des années de conflit. Est-ce là une lueur d'espoir ? Les réponses de Laurette Duranel.
Oui Lucie, cela faisait déjà longtemps que les deux États rivaux du Caucase clamaient leur souhait de signer un traité de paix pouvant régler leurs différends. Mais les incidents réguliers armés avaient compliqué et retardé ces pourparlers. Jusqu'à maintenant, les États-Unis, l'Union européenne et la Russie avaient tenté de jouer les médiateurs sans succès. Erevan et Bakou semblent finalement s'être entendus sans aucune supervision extérieure. Et cette entente nouvelle est déjà visible. Après avoir rendu 4 villages à l'Azerbaïdjan la semaine dernière, les deux pays ont commencé hier la délimitation de leurs frontières communes sur la base de cartes datant de l'époque soviétique. Un pas important quand on sait que ces questions territoriales ont donné lieu à plusieurs guerres ces dernières années, notamment autour de l'enclave arménienne du Haut-Karabakh. Mais tout ne semble pas réglé pour autant. Plusieurs manifestations ont d'ailleurs éclaté en Arménie. Les Arméniens vivant à la frontière craignent d'être isolés et que leur maison se retrouve sous le contrôle de l'Azerbaïdjan. De son côté, Erevan assure que le transfert de toute partie de son territoire est exclu.
Et le Kazakhstan pourrait faire office de médiateur dans ses pourparlers afin d'aider les deux pays à s'accorder sur leurs nouvelles frontières. Le Hezbollah libanais, lui, a annoncé hier avoir tiré des dizaines de roquettes sur Israël. L'agence de presse libanaise Ani avait annoncé plus tôt qu'une frappe israélienne avait tué une femme d'une cinquantaine d'années et une fille de 12 ans de la même famille dans le sud du Liban et fait plusieurs blessés dans une maison de Hanin, c'est près de la frontière israélienne.
Vers un jeudi noir demain dans les aéroports.
Oui, une grève des contrôleurs aériens est prévue un peu partout en France. Elle devrait conduire à des annulations de vols en pagaille. On fait le point avec Magali Santulli.
Oui, la Direction générale de l'aviation civile a déjà annoncé que les compagnies aériennes vont devoir annuler demain 75% des vols à l'aéroport parisien d'Orly et 65% à Paris-Charles de Gaulle. Ce sera pareil à Marseille. Ce sera 60% des vols à Toulouse et et Nice et 50% pour les autres aéroports. Ces perspectives de mouvements sociaux battent en brèche la trêve olympique des principaux syndicats. En effet, ces derniers avaient promis en septembre 2023 de ne pas faire grève pour des raisons salariales d'ici à la fin des Jeux olympiques et paralympiques. Le syndicat des contrôleurs aériens conteste la refonte du contrôle aérien en France et demande des mesures de compensation et des hausses de salaire. Il a déploré dans un communiqué l'échec de la conciliation, notamment sur la question de l'accompagnement social, et donne à nouveau 15 jours au pouvoir public pour s'inscrire dans la recherche de solutions. Notez que le principal syndicat des aiguilleurs du ciel menace déjà d'une nouvelle grève pour le pont de l'Ascension les 9, 10 et 11 mai.
Tout autre chose, le gouvernement a décidé d'affecter 650 millions d'euros aux EHPAD, dont 190 millions pour les établissements publics. En réponse aux grandes difficultés financières du secteur, c'est ce qu'a annoncé au Figaro la ministre déléguée aux personnes âgées, 13 organisations du secteur du grand âge, public et associatif, avaient tiré lundi la sonnette d'alarme sur la gravité de la situation financière d'une ampleur inédite dans leurs établissements.
À presque 3 mois des Jeux Olympiques, un secteur se prépare. L'hôpital.
Oui, alors que les services parisiens fonctionnent en temps normal avec moins de personnel pendant l'été, comment se prépare-t-il à l'arrivée de plus de 15 millions de visiteurs pendant les JO ? Le gouvernement a demandé à certains services, notamment aux urgences de la région parisienne, d'être à 100% de leur capacité. Un objectif auquel les professionnels de santé essaient de se préparer au mieux, même s'il reste des questions sans réponse. Agnès Ricard-Hibon est porte-parole du syndicat SAMU Urgences de France.
On essaye de s'organiser pour, mais en tout cas, il y a des interrogations et des questions qui sont posées pour lesquelles on attend des réponses. C'est pas tellement l'inquiétude, en fait, c'est l'absence de réponses, parce que on n'a pas les réponses concernant les primes. Il n'y a pas de directive claire. On nous dit les gens peuvent partir en vacances, mais il faut être à 100%. En fait, c'est assez flou. Et l'autre sujet, c'est qu'on avait demandé un renforcement de la province, justement, en fait, au niveau de la médecine d'urgence. Il y a le quotidien, et puis il faut aussi être en capacité de gérer les situations sanitaires exceptionnelles. Et donc, il ne faut pas que toute la ressource soit déjà embolisée. Donc, il y a pour les Jeux un renforcement de la province qui a été prévu par des équipes SMUR de province pour lesquelles on ne connaît pas le dimensionnement.
Au chapitre politique, la Ligue des droits de l'homme et Utopia 56 ont déposé hier une plainte à Paris pour complicité de crimes contre l'humanité et complicité de torture contre Fabrice Légerie, le numéro 3 de la liste RN pour les élections européennes. C'est ce que révèle France Info et le journal Le Monde. De 2015 à 2022, Fabrice Légerie a occupé le poste de directeur exécutif de Frontex, c'est l'agence européenne de garde frontière et de garde côte. Dans cette plainte, il lui est reproché d'avoir activement facilité des refoulements illégaux en mer de bateaux de migrants dans le cadre de ses fonctions. Raphaël Glucksmann, tête de liste du Parti Socialiste aux Européennes, veut couper l'herbe sous le pied d'Emmanuel Macron avec un grand discours sur l'Europe ce soir lors d'un meeting à Strasbourg, à la veille de celui du chef de l'État à la Sorbonne. Ce sera un moment important, prévient l'entourage de l'eurodéputé qui va présenter sa vision pour l'Union Européenne, son plan Europe 2030 qui sera articulé sur 3 axes, la défense, l'écologie et les solidarités.
C'est aujourd'hui la journée internationale du chien guide.
Une présence indispensable et un soutien émotionnel pour les personnes qui en ont besoin. Malgré cela, par endroits, il manquerait de chiens guides. Ajoutez à cela encore une méconnaissance du grand public. Certains chiens guides sont parfois refusés, encore dans certains espaces publics, alors que la loi stipule qu'ils sont autorisés. Selon Michel Rossetti, le vice-président de la FFAC, la Fédération française des associations de chiens guides, il s'agit là d'une méconnaissance et d'un manque de sensibilisation. Écoutez.
Le grand public connaît le chien guide. Quand on voit une personne avec un chien, avec un harnais sur le dos, les gens identifient relativement vite. Après, la difficulté, c'est que bien souvent, il y a le problème de l'hygiène, qui est un problème assez récurrent et qu'on retrouve de plus en plus, un peu dans toute notre société. Ce qui fait que le chien est souvent assimilé à un manque d'hygiène. Un chien va lever la patte pour faire pipi partout. Vous voyez un peu cette image qu'on a du chien, alors que nos chiens sont des chiens qui sont parfaitement éduqués, qui savent se tenir. Je le redis souvent, mais nos chiens sont peut-être les plus propres dans les villes, puisqu'ils font leurs besoins dans les caniveaux, etc. Mais alors, c'est vrai que peut-être les gens connaissent mal le rôle du chien guide et son comportement surtout. Et on assimile le chien un peu au chien de tout le monde. Voilà.
Et refuser cet accès dans un lieu public, c'est un délit qui peut être verbalisé d'une amende de 150 à 450 euros.
Merci Lucie Rispal.